Europe 1. Europe 1, on de la traconte.
C'est la scène fondatrice de cette histoire. Le samedi 28 août 1982, vers 18h, on voit des Alpines Renault se garer au pied d'un immeuble en briques, à deux pas du bois de Vincennes, à l'est donc de Paris. 10 hommes en descendent, tous en civil. Ils appartiennent au GIGN, le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale. À leur tête, le capitaine Paul Barry. En quelques secondes, ils se glissent armes au poing dans l'immeuble et prennent position dans la cage d'escalier. Soudain, au troisième étage, une porte s'ouvre. Deux hommes sortent de l'appartement.
« On y va, les gars. C'est la cible. »
En moins d'une seconde, les super gendarmes leur sautent dessus, les plaquent au sol, leur couvrent la tête d'un t-shirt, leur attachent les mains avec un lien en plastique. Les deux hommes interpellés à Vincennes avec force ou moyen sont des Irlandais. L'un est un rouquin barbu, l'autre un grand blond. Et si on a mobilisé le GIGN pour les arrêter, c'est qu'on pense qu'ils préparaient un gros coup. Il faut donc tout de suite perquisitionner l'appartement dont ils viennent de sortir, leur planque. C'est un tout petit deux pièces. Et pour conduire les perquisitions, il faut un officier de police judiciaire. Les gendarmes du GIGN ne sont pas là pour ça. Ils ont serré les deux bonhommes, ils les remettent à leurs collègues de la section de recherche. Et d'ailleurs, le voilà, le patron de la section de recherche de la gendarmerie, le commandant Beau, et derrière lui, un de ses adjoints, le major Vandels. Et quand ils arrivent, le deux pièces est sans dessus dessous, il y a du monde partout, et le commandant Beau est furieux. Mais merde, arrêtez de toucher à tout! Et du coup, on évacue les deux Irlandais, direction le fort de Vincennes, où loge la section de recherche de la gendarmerie. C'est un peu après leur départ, alors que les gendarmes sont toujours en train de fouiller l'appartement, qu'une femme se présente à la porte, avec une valise dans la main gauche et dans la main droite un gamin, un garçon, dans les 8-10 ans. Les gendarmes les embarquent immédiatement tous les deux, direction le fort de Vincennes, eux aussi. La perquisition se termine, et ma foi, la pêche a été bonne. Dans l'appartement, les gendarmes ont trouvé deux armes à feu. Et surtout dans les toilettes, sur une étagère, au-dessus de la porte, ils ont trouvé un pain de plastique enveloppé dans du papier Kraft, avec deux mèches. Il suffisait de les relier à un détonateur et on avait une bombe. Les gendarmes ont aussi trouvé cinq faux passeports, dont deux ont la même photo du même homme, le barbu rouquin. Alors oui, c'est une bonne pêche. Le GIGN vient de neutraliser un groupe terroriste irlandais qui, manifestement, était prêt à passer à l'action. D'où le communiqué triomphal de l'Élysée le soir même. Deux arrestations jugées importantes ont été opérées aujourd'hui en France dans les milieux du terrorisme international, ont été également saisies des documents et des explosifs. C'est la première grosse opération de la toute nouvelle cellule antiterroriste de l'Élysée, créée par le président Mitterrand 3 jours plus tôt. Sa réponse aux attentats qui ont frappé la France depuis le début de l'année. Une bombe dans le train Paris-Toulouse le 29 mars, 5 morts, 29 blessés. Une explosion de voiture rue Marbeuf le 22 avril, 1 mort, 63 blessés. Et l'attentat de la rue des Rosiers dans le quartier juif le 9 août, 6 morts, 22 blessés. Le terrorisme international, nous le traquerons, nous l'atteindrons à la racine. Viendra le jour où il succombera sous nos coups, a dit Mitterrand au milieu de l'été. C'est juste après qu'il a donc créé cette fameuse cellule, à la tête de laquelle il a placé Christian Proutot, l'homme qui 10 ans plus tôt a créé le GIGN, et Paul Baril, venu lui aussi du GIGN. C'est lui, Baril, le capitaine Baril, qui vient de mener l'opération de Vincennes contre les Irlandais. Cette affaire, c'est son succès. Ça va devenir son boulet. Mais à propos, qui sont ces Irlandais? Au fort de Vincennes, ils sont maintenant trois en garde à vue. Le rouquin barbu, le grand blond et la dame qui est arrivée après la bataille avec son gamin à la main. Les gendarmes plongent dans les fichiers d'Interpol. Le premier, le rouquin barbu, s'appellerait Michael Plunkett. Aïe, c'est un dur de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. Il appartiendrait à la branche la plus radicale. Les fichiers d'Interpol disent que c'est un logisticien. C'est lui qui, en général, fournit le matériel, les armes et les bombes pour les attentats. Les Anglais ont longtemps pensé qu'il avait participé à l'assassinat du conseiller aux affaires irlandaises de Margaret Thatcher. Mais ils n'ont pas pu le coincer, par manque de preuves. Le capitaine Baril de la cellule de l'Élysée pense qu'il était à Paris pour préparer un attentat. Mis en garde à vue, Plunkett, il donne pas l'heure. Il réclame juste un avocat. En 82, il n'y a pas droit. À part ça, il n'a rien à dire. Le second, le grand blond, s'appelle Stephen King. Lui consent à dire deux ou trois choses. S'il est à Paris, c'est parce qu'il s'est enfui des Pays-Bas où les services secrets britanniques ne le lâchaient pas d'une semelle, au point qu'il avait peur. Peur d'être éliminé. Alors il a pris le premier train et il est allé se planquer à Paris, chez son copain Plunkett. Voilà. Pour le reste, il ne comprend pas très bien pourquoi il est là. Et puis il y a cette femme qui a débarqué à l'appartement pendant que les gendarmes menaient leur perquisition avec un gamin à la main. Elle s'appelle Marie Red. Elle a 29 ans et elle baragouine un peu le français. Elle aussi, c'est une militante irlandaise, ex-rédactrice en chef du journal nationaliste La Charrue étoilée. C'est aussi la copine du rouquin barbu, Plunkett. Et elle s'inquiète pour son fils, Catal. Qu'allez-vous faire de lui ? Réponse des gendarmes. Ça dépend de vos réponses. Et comme elle n'est pas loquace, le blondinet est envoyé dans un foyer de la DAS. Quand elle l'apprend, elle entre dans une colère noire. Vous ne pouvez pas faire ça, il n'a que 9 ans. « D'accord, madame, mais est-ce vraiment la place d'un enfant que de participer aux activités clandestines de sa mère ?»« Je vais vous dire quelque chose, monsieur. Son arrière-grand-père est mort pour la cause. Son grand-père est mort pour la cause. Et s'il le faut, il mourra lui aussi pour la cause. » Et quand finalement les gendarmes emmènent l'enfant, elle devient une furie. Ils s'y mettent à quatre pour la maîtriser. Et pourtant, elle ne pèse que 40 kilos. Quel est le rôle exact de cette femme dans la bande ? Quand elle s'est pointée à l'appartement, elle tirait une grosse valise. Dans cette valise, il y avait des cartes de tarot, un tabouret pliant et un bloc de mousse. Étrange. Un temps, les gendarmes se disent que la mousse a pu servir à caler une bombe. Ils comprendront plus tard qu'avec cet attirail, elle allait tout simplement sur l'esplanade du musée Beaubourg. Elle s'installait sur son tabouret et elle tirait les cartes aux passants. Le bloc de mousse, c'était son coussin ou celui du petit. Voilà donc le premier portrait qu'on peut tirer des trois terroristes que les super gendarmes de l'Élysée sont allés pêcher à Vincennes. S'il n'y avait pas les armes et les plastiques, franchement, on voit pas bien où ils sont dangereux. Les gendarmes interrogent les trois Irlandais sur les armes et le pain de plastique qu'on a retrouvé dans l'appartement de Vincennes. D'où ça vient ? Et à quoi est-ce que ça devait servir ? Marie Red jure qu'elle n'était au courant de rien. Elle ne savait pas. Plunkett, il reconnaît qu'il avait une arme, mais une seule, pour se protéger des services secrets britanniques. Tout le reste, le deuxième pistolet, l'explosif, les mèches et les détonateurs, ils jurent tous les trois à leur grand Dieu que c'est pas à eux. Et ils vont même plus loin. Ils accusent les gendarmes de les avoir placés dans leur appartement. La vieille excuse. Et puis quoi encore ? Des gendarmes qui placent des armes chez les gens pour les faire tomber. On n'est pas dans une république bananière. On est en France. On est dans la patrie des droits de l'homme. On est en démocratie. Alors messieurs, il va falloir inventer autre chose. Parce que là, on marche sur la tête. Arrivés au bout de leur garde à vue, les Irlandais sont déférés devant le juge d'instruction. Et là, c'est autre chose. Là, ils ont pu voir leur avocat. Ils sont même accompagnés par leur avocat. Et tous les trois parlent d'une seule voix. C'est un coup monté. Ils n'avaient aucun projet d'attentat. Ils accusent le capitaine Baril de la cellule de l'Élysée d'avoir monté une machination contre eux, avec le M6 britannique. Au début, le juge les trouve gonflés, jusqu'à ce qu'ils racontent un détail de leur arrestation. Les gendarmes qui les ont interpellés, pas les gendarmes en uniforme, les premiers, ceux qui étaient en civil, ils ont perquisitionné l'appartement en leur absence. Ce qui est contraire à toutes les règles. Une perquisition, ça se fait toujours en présence des intéressés. Toujours. Et le juge comprend tout de suite que si c'est le cas, toute la procédure est nulle. Les armes, les plastiques, les mèches, les détonateurs, en droit, tout ça n'a jamais existé. Et si ça n'a pas existé, son dossier est vide. Et si son dossier est vide, alors il faut qu'il relâche les Irlandais. Autre chose qui gêne le juge à ce moment-là. Parce que des dossiers, il en a vu des centaines. Il sait que quand on trouve une arme, on prend toujours des photos. Un plan serré et un plan large, pour qu'on situe bien l'endroit où on a retrouvé l'arme. Or, dans le dossier, il n'y a que des photos floues et sans intérêt. Alors le juge a le tarin qui frétille. Ça sent pas bon tout ça, ça sent pas bon du tout. Lui, il voudrait annuler tout de suite toute la procédure. Mais chez le procureur, ça renacle, ordre d'en haut, il faut tenir. Alors pour marquer son autorité, il demande la libération de Marie Red. Puis il fait venir dans son cabinet le commandant Beau de la section de recherche. À lire ses procès-verbaux, tout s'est passé dans les règles. Mais le juge ne le croit pas. Le juge ne le croit plus. C'est pour ça qu'il décide de le décharger de l'enquête pour la confier aux policiers du 36 quai des Orfèvres. Mais le scandale, c'est la presse qui va le révéler. Dans le numéro du journal Le Monde daté du 1er février 83, un jeune journaliste qui s'appelle Edwy Plenel publie une enquête détaillée sur l'arrestation des Irlandais de Vincennes. Procédure bâclée, récit confus, témoignage contradictoire, preuve suspecte. Plenel déjà ne fait pas dans la demi-mesure. Pour justifier ces arrestations intempestives, on a fabriqué des preuves matérielles de façon à démontrer que les trois inculpés préparaient un attentat. C'est énorme. Edwy Plenel, dans Le Monde, qui n'est pas vraiment une feuille de chou, accuse les super gendarmes de l'Élysée d'avoir fabriqué de fausses preuves pour faire tomber ces Irlandais. À partir de là, le château de cartes s'écroule. Le 13 mai 1983, le gendarme qui a pris les photos floues se met à table. Il balance tout au juge. Oui, c'est vrai, les Irlandais n'étaient pas présents pendant la perquisition. Et lui n'a découvert qu'une seule arme, celle qu'a reconnue Plunkett. Pour ce qui est de l'autre arme et de l'explosif, avec des collègues, on a émis l'hypothèse qu'un certain nombre d'objets avaient pu être ramenés dans l'appartement. Et il ajoute qu'il a été briefé par sa hiérarchie sur ce qu'il fallait dire au juge. Et ça, le juge, il aime pas du tout. Une semaine plus tard, les Irlandais sont relâchés.
Vous aviez les armes chez vous, à Vincennes ?
C'est ce qu'a dit la police, effectivement, mais aujourd'hui, je suis libre alors. Mais il y a un point, en tout cas, sur lequel je voudrais insister. C'est la position du GIGN et d'hommes tels que le capitaine Baril et le commandant Beau. Pendant tous mes interrogatoires au fort de Vincennes, ils n'ont cessé de parler de l'honneur de la gendarmerie, notamment. Or, je pense que les événements à venir démontreront que Baril, en fait, organise des groupes d'extrême droite à l'intérieur de la gendarmerie française. Je ne peux pas le prouver, mais en tout cas, j'ai la ferme conviction que les services secrets britanniques sont à l'origine de toute cette farce.
by the British Secret Service.
Pour les trois Irlandais, l'affaire est terminée. Ils obtiendront un non-lieu et un franc de dommages et intérêts. Mais pour les gendarmes et la cellule de l'Élysée, l'affaire ne fait que commencer. C'est un scandale qui commence, un scandale d'État. Tous les gendarmes qui ont participé à cette improbable épopée flanchent les uns après les autres. Ça tombe comme des dominos. D'abord, l'officier de police judiciaire chargé du procès-verbal de l'arrestation, le major Vindels. Et dans la foulée, le commandant Beau lui-même. Il reconnaît que depuis le début, il couvre ses frères du GIGN. Ce qui finalement n'est pas très étonnant. L'autre lui a dit « Tu m'arranges le coup ». C'était un officier, il venait tout droit du palais de l'Élysée, il lui a donc arrangé le coup. Il a tripatouillé la procédure. Alors oui, Baril et ses gendarmes du GIGN sont bien entrés seuls dans l'appartement et il n'y avait aucun officier de police judiciaire. Et quand lui et ses hommes sont arrivés, après la bataille donc, les Irlandais n'étaient plus là. Quand ils ont fouillé l'appartement, ils étaient déjà partis. Et oui, il sait que c'est illégal. Et c'est pas fini. Le commandant Beau en a encore sous le pied. Il lui reste un dernier petit péché à avouer. Il y a quelque temps, il a convoqué dans son bureau à Vincennes tous les gendarmes qui ont participé à cette enquête, pour les préparer, en quelque sorte, à leur prochain passage devant le juge. « Écoutez, messieurs, quand vous serez interrogés, contentez-vous de dire que tout a été fait dans les règles. Restez-en là. Couvrir des collègues, c'est normal. C'est même un devoir. » Ouh là là, le juge va pas aimer ça. Subornation de témoins, ça peut lui coûter très cher au commandant Beau. Et après? Après, c'est la débandade. Proutot lâche Baril, alors Baril charge Beau. Ah, c'est confortable, puisque Beau a avoué. Et Beau, le commandant Beau, le monsieur qui obéit aux ordres qui viennent d'en haut, devient le bouc émissaire. Tout le monde s'essuie les pieds dessus. Il est sanctionné par l'armée. Il sombre lentement et sûrement dans la dépression. Il finit à l'hôpital. Pauvre commandant Beau. Mais il remonte la pente. Et ce qu'il veut démontrer maintenant, c'est que les ordres, ils venaient d'en haut. Ils venaient de l'Élysée, du commandant Proutot. Que c'est lui, Proutot, le responsable. Et c'est Beau, tout seul, qui va découvrir le chaînon manquant de cette affaire. Pourquoi diable la cellule antiterroriste de l'Élysée s'est intéressée d'un coup à ces trois Irlandais qui n'avaient aucun projet d'attentat en France? Qui les a mis sur cette piste? Si on raisonne un peu, ils sont Irlandais. Plunkett est un show. Le MI6, les services secrets britanniques, ont demandé à la France d'aller un peu charger la mule contre des militants de l'IRA. C'est tentant comme théorie. Et c'est bien conspirationniste. C'est d'ailleurs pour ça que c'est tentant. Mais on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. Savez-vous qui a mis le capitaine Baril sur la piste de ces militants irlandais? Un journaliste. Un pigiste parisien de 33 ans, un certain Bernard Jega. Et voilà donc le tout début de cette histoire. Ce Jega, c'est un sympathisant de la cause irlandaise, un type un peu fragile et plein d'idéaux. Au début, pour aider, il hébergeait son ami Plunkett. Et puis il s'est mis à jouer les porteurs de valises, il cachait des armes, des explosifs, des détonateurs. Ce qui semble indiquer au passage d'ailleurs que Plunkett n'était pas l'oie blanche qu'il prétend être. C'était un vrai terroriste. Fin de la parenthèse. Et c'est au moment de l'attentat de la rue des Rosiers, dans le quartier juif à Paris, que Jega a commencé à baliser. Certes, on soupçonnait les mouvements pro-palestiniens, mais lui, Bernard Jega, sur un portrait robot, il a cru reconnaître Plunkett. Il a eu la trouille, il a été pris de remords, il en a parlé à un collègue journaliste qui l'a orienté vers le capitaine Baril. La suite vaut son pesant de cacahuètes. Baril récupère tout le matériel que Plunkett stockait encore chez Jega. Et il y a du lourd, 10 pistolets tchèques, un pain d'explosifs de 500 grammes, des détonateurs, des mèches lentes et des faux papiers d'identité. Et le jour de l'intervention chez Plunkett, il a monté ce qu'on appelle un chantier. Il a fourré l'appartement avec de fausses pièces à conviction et il a attendu ses collègues. Alors maintenant que tout est sur la table, il va falloir départager les responsabilités. Proutot, Baril, Géga, Beau. Est-ce qu'on va mettre tout le monde dans la même casserole? À votre avis? À mon avis, non. On commence par le civil. Eh oui, c'est plus facile. Le journaliste Bernard Géga est inculpé pour détention d'armes et de munitions. Proutot et Beau sont inculpés pour subornation de témoins et renvoyés longtemps après devant le tribunal correctionnel de Paris. Et voilà. Ah, il manque Baril ? Ah ben oui, oui, il manque Baril. Alors qu'il y a un rapport remis au ministère de la Défense qui dit qu'il est l'instigateur de cette affaire. Mais le rapport a été classé secret défense. Baril est protégé. Par François Mitterrand, bien sûr. Pourquoi ? J'ai pas la réponse. Et en attendant, il faut juger les autres. Donc, 9 ans plus tard, il faut replonger dans cette mascarade. Et en même temps, quelle justice pour François Mitterrand, qui est toujours président de la République et dont l'ombre plane évidemment sur toute cette affaire. À ce procès, vous vous en doutez, il y a foule. Dans le box, ils sont 4. 3 gendarmes, Proutot, Beau et Wendels, et le journaliste Bernard Géga. Baril est le grand absent, évidemment. Mais il a tout de même été invité à témoigner, à déposer. Ah oui, mais c'est embêtant, il ne va pas pouvoir témoigner. Il est en voyage au Qatar.
L'ancien adjoint de Christian Proutot, au GIGN, était juste cité hier comme témoin au procès des super-gendarmes. Il n'est pas venu. Baril brille une fois de plus par son absence. Il est, si l'on en croit une lettre qu'il a envoyée, avec la photocopie d'un visa, en voyage d'affaires au Qatar. Excuse insuffisante pour le président du tribunal qui a ordonné que l'on amène Paul Baril par la force si nécessaire à l'audience.
Sauf que Baril, en fait, il est à Paris. Il est photographié par Paris Match. Et ce qui est drôle dans ce procès, c'est que les Irlandais sont partie civile, sagement installés sur leur banc de victimes. Alors qu'on sait maintenant qu'ils stockaient vraiment des armes et des munitions. Pas chez eux, mais chez Géga. Mais c'est tout comme. Mais là, ils sont victimes. Marie Red raconte comment elle a été arrêtée et enfermée 9 mois. Comment son enfant s'est retrouvé à la DAS pendant 9 mois. Comment elle ne s'en est pas remise. Et après ça, les Irlandais, on ne les entendra plus. On commence par Géga, le journaliste qui serait à l'origine de tout. Géga, il a refusé l'assistance d'un avocat. Et dès qu'on lui donne la parole, il attaque bille en tête les magistrats, le juge d'instruction et pour en finir, la justice tout entière, qui est à la botte du pouvoir. La justice, c'est discrédité. Il est hors de question qu'il soit jugé sur un dossier totalement trafiqué. Il hurle « J'ai honte d'être français !» Et pour joindre le geste à la parole, il déchire ses papiers d'identité et il les jette au pied du tribunal. Du grand spectacle, il est expulsé sur le champ et ne sera plus autorisé à revenir. Beau, le commandant Beau, le serviteur de la gendarmerie nationale, droit dans ses bottes jusqu'au bout. Oui, oui, il a dit à ses hommes de mentir au juge. Et il assume. Mieux, il revendique. C'était mon devoir. Il s'attend à être sanctionné, mais il veut qu'on remonte toute la chaîne des responsabilités, jusqu'à Baril, jusqu'à Proutot, jusqu'à Mitterrand, s'il le faut. Proutot, lui, c'est pas le même bois. C'est du bois dont on fait les flûtes. Il nie tout en bloc. Il est là, dans son uniforme de préfet, bien raide. Il n'était au courant de rien. Mais enfin, s'étonne le président. Qui commandait le capitaine Baril? Pas de réponse. Le capitaine Baril, grâce à Paris Match, on l'a retrouvé. Il n'était donc pas au Qatar. Alors un matin, on l'amène à la barre par la peau des fesses. Et le voici qui entre dans la salle d'audience avec son avocat, Maître Vergès, le plus roublard des avocats. Ça promet du spectacle. Et à la barre, le capitaine Baril, il dégomme à tour de bras. Géga, c'est un affabulateur. Beau, c'est un malade mental. « Avez-vous déposé des armes chez les Irlandais ?» demande en pure perte le président.
Mais jamais, enfin, vous interrogez un officier de la gendarmerie. Vous n'y pensez pas, répond Baril. Fin de la pantalonnade, Baril s'en va vaquer à ses occupations et s'adresse à la sortie au micro d'Europe 1.
Dans la lutte antiterroriste avec Proutot, on avait mis une méthode au point. On avait dit, il ne sert à rien d'arrêter des gens qui ont commis un attentat. Nous, on se plaçait avant. On voulait arrêter les gens avant que l'attentat soit commis. Et qu'est-ce que j'amène comme preuve? Je ne peux pas amener des cadavres, puisque je les arrête. Les gens ne vont jamais dire, on va faire un attentat. Les gens qui sont morts dans UTA à l'avion. Si moi, Paul Baril, j'avais arrêté un type avec une valise, j'aurais jamais eu 179 cadavres. Voilà, ça, c'est la technique de Baril et de Proutot. On arrête avant.
À la fin, les quatre prévenus sont reconnus coupables. Même tarif pour Proutot, Beau et Géga. 15 mois de prison avec sursis. Et 4 mois pour le gendarme Wendels. C'est écrit dans le jugement. Le commandant Proutot a été personnellement impliqué dans la préparation et l'exécution de l'opération. Proutot est sonné. Il pensait s'en sortir. Alors il fait appel. Et en appel, la justice va lui réserver un traitement aux petits oignons. Quand on fait appel, en principe, il faut attendre 2 ans au moins. Pas là. 2 mois. Et voici le procès en appel. C'est ballot, on a dû rappeler un juge à la retraite qui décrète qu'il n'y a nul besoin de réentendre les témoins du premier procès. Donc, ça va vite. Le procès en appel est bouclé en une après-midi. Le procureur maintient ses 15 mois contre Beau, mais pour Proutot, il a changé d'avis. C'est plus 15, c'est 0. Il demande la relaxe du commandant Proutot. Et à la fin, le préfet Christian Proutot a lavé son honneur. Relaxé. Et Beau qui hurle « Ah ouais, ah bravo, bravo la République !» Mais il y aura encore un procès. Et celui-là sera peut-être plus proche de la vérité. C'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé. Et c'est assez rafraîchissant. Car au départ, c'est le capitaine Baril qui attaque le journal Le Monde et Edoui Plenel en diffamation. Le Monde a osé écrire que le capitaine Baril avait manipulé des preuves. Mais ça va se retourner contre Baril. Géga vient témoigner. Et Baril en prend plein la tête. Et le tribunal reconnaît que tout ce que dit Plenel est vrai. Les juges se prononcent même sur le fond, ce qui n'est pas vraiment leur mission. Petite vengeance. L'opération des Irlandais n'a été de bout en bout qu'un montage réalisé par le capitaine Baril. Ça n'aura pas de conséquences pour lui, mais il est rassurant que ce soit écrit quelque part. Et c'est la fin de l'histoire. Et c'est à ce moment-là qu'éclate un autre scandale, mais je vous la raconterai une autre fois cette histoire. L'affaire des écoutes de l'Élysée. Vous y retrouverez nos héros, Proutot et Baril. Prochainement.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.